Valli met l'accent américain sur l'invasion britannique aux États-Unis.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Il y a comme un petit drapeau new-yorkais ou londonien qui flotte dans sa voix. Mais ça, c'est l'oreille d'une Française qui vous le dit, donc je peux me tromper. Elle est jolie comme une punk qui se serait échappée du film La Mélodie du Bonheur. Elle s'appelle Valli. Elle est née au fin fond des États-Unis du côté des années 60, a rejoint nos nuits parisiennes dans les années 80, a été la chanteuse d'un des premiers groupes de rap français, Chagrin d'amour. Elle est aujourd'hui une de nos animatrices télé et radio préférées. Et comme elle n'est pas du genre métro boulot dodo, elle vient de plancher sur un beau livre intitulé British Invasion Pop Saved the Queen, où à travers une conversation avec Stephen Clark, elle revisite l'invasion culturelle britannique de l'Amérique des années 60, de James Bond à Bowie, en passant par Tolkien ou J.K. Rowling. C'est trop fun à lire. Hi there, chère Valli.
Comment allez-vous?
Bien. First question, fun, est-ce que c'est un mot anglais ou un mot américain?
Fun? Bah, je pense que c'est, pour moi c'est américain parce que c'est très exubérant comme mot, fun. Après les Français en ont adopté, mm-hmm. Il y avait même une radio, Fun Radio. Je crois que c'est plutôt américain qu'anglais.
Et quand je dis que vous avez peut-être un accent soit new-yorkais, soit londonien, je suis juste, je suis fausse, c'est quoi votre accent aujourd'hui?
Moi j'ai un accent collant. Ça ne s'en va pas. Mon accent est américain, forcément. Parce que je viens des États-Unis, peut-être anglais, parce que les gens pensent plus que je suis anglaise, parce que je ne parle pas comme ça, comme les Américains souvent. Et donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'on peut me prendre souvent pour en anglaise.
Alors, avant d'ouvrir ce beau livre que j'ai sous les yeux, où on regarde qui est colonisé par qui, voyons, Valli, dans quelle vallée de l'enfance vous avez grandi.
L'enfance, ce sont les petits avions qui passent dans le ciel que j'écoute sur le dos dans le jardin. C'est le son de l'océan Atlantique que j'entends de loin dans mon lit l'été. Ce sont les disques de Frank Sinatra que ma mère écoute à la maison et sur lesquels elle chante. C'est mon père qui joue du violoncelle. Pas très bien, j'ai l'impression. Ma maison dans le Connecticut est dans un quartier résidentiel tout droit sorti des films de Spielberg ou de Sofia Coppola, The Virgin Suicides. L'enfance et ma mère, cinéphile. On regarde ensemble le film classique de 1945, Mildred Pierce, avec Joan Crawford. Quand ça passe à la télé, ça me glace le sang.
Yes, mother, what is it?
Where did you find the uniform you gave Lottie?
I was looking for a handkerchief.
In my closet?
I looked everywhere else.
Your handkerchiefs are in your own top drawer, where they always are. Now, what were you doing snooping around my closet?
Really, mother, it seems to me you're making quite a fuss about something which doesn't matter. If you bought the uniform for Lottie, and I certainly can't imagine who else you could have bought it for, then why shouldn't she wear it?
You've been snooping around ever since I got this job, trying to find out what it is. And now you know. You know, don't you?
Know what?
Ash.
Know what, Mother?
You knew when you gave that uniform to Lottie that it was mine, didn't you?
Go.
Your uniform?
Yes, I'm waiting tables in a downtown restaurant.
My mother, a waitress.
Home, sweet home.
Alors, quand vous entendez cet extrait de film avec Joan Crawford qui a le sourcil agressif de la star des années 30, vous êtes un peu à la maison, la Valli.
Ben oui, à la maison, et puis ça me glace le sang, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est tellement horrible de voir cette relation entre une mère et sa fille.
C'est l'histoire d'une mère de famille de la classe moyenne qui tente un peu de joindre les deux bouts, comme on dit, pour maintenir la position sociale des siens. On est en pleine grande dépression et sa fille est une peste.
C'est une véritable peste, et comme sa mère, évidemment, elle est divorcée ou laissée par son mari, donc elle doit évidemment trouver un boulot. Elle trouve un boulot comme serveuse, et sa fille ne supporte pas. Elle a déjà la folie des grandeurs, elle se trouve comme une princesse. Et quand elle trouve l'uniforme dans un tiroir, c'est ça l'extrait qu'on vient d'entendre, elle est convaincue que ça ne peut pas être pour sa mère, que ça doit être pour leur bonne ou leur femme de ménage.
En tout cas, cinéma et musique ont été un peu les deux mamelles de votre éducation.
J'aime bien cette expression, oui, les deux mamelles, j'étais très bien dessus.
Beaucoup.
Ouais.
Pourquoi il y avait autant de cinéma et de musique à la maison?
Je crois que ça vient vraiment de ma mère. Ma mère était cinéphile. Elle est née en 1922, donc elle a vécu la grande époque de Hollywood, the golden age of Hollywood. Elle était très intéressée, pas seulement par l'image, mais aussi par qui faisait ce cinéma-là, par les réalisateurs, les différents studios. C'était tourné à le Paramount, mais ils ont prêté telle et telle actrice à un moment à RKO, et qui étaient les seconds rôles, étaient intéressés par tout ça. Et puis la musique, pareil, elle était peut-être une rock'n'rolleuse de son époque, parce qu'elle est allée voir les groupes comme Artie Shaw, qui était une clarinettiste, et elle a vu Glenn Miller en concert, et pour moi c'est un peu les prémices de rock'n'roll, et je pense que tout ça vient peut-être d'elle, et aussi parce que mes parents étaient, comme on dit en anglais, patrons of the arts. Ils étaient très intéressés par le monde artistique et faisaient le bénévolat auprès des institutions et tout ça. Donc, si c'était de la musique classique ou quoi, il y avait beaucoup de ça à la maison.
Alors, vous êtes né, on va le dire, en 58, donc dans le Connecticut. Comment vous définiriez la mentalité de ce coin d'Amérique profonde?
C'est Amérique profonde, oui. C'est là où l'Amérique est née, en fait, parce que c'est là où les pèlerins sont arrivés à Plymouth, dans le Massachusetts. Donc, ça fait partie de 6 États, magnifiquement beaux, avec les maisons en bois. L'Atlantique, j'ai grandi dessus, c'est le granit, ça me rappelle pas mal certaines parties de Bretagne, d'ailleurs, ce paysage-là, côtière sur l'Atlantique. Et donc, c'est l'Amérique profonde, mais c'est assez, quelque part, élitiste par moment, et puis très simple par d'autres aspects.
Et on vous a raconté d'où venaient vos ancêtres, s'ils avaient pris le Mayflower,
oui,
leur traversée?
Alors je dis toujours, mon père est arrivé, ses parents sont nés en Russie. Bon, à l'époque c'était la Russie, maintenant c'est l'Ukraine, donc c'est à Kiev. Ils sont arrivés à la fin du 19e siècle, et ma mère, sa famille est arrivée en 1640, c'était peut-être pas le Mayflower, mais tout comme. Donc elle est arrivée dans la Nouvelle-Angleterre, dans le New Hampshire, et mon père, c'était côté Philadelphie, très différent comme ambiance.
Alors, cette Amérique des années 60, elle est remuante, ségrégationniste, évidemment, on le sait, et la petite fille que vous êtes se souvient bien d'avoir entendu les noms de Martin Luther King et de John Fitzgerald Kennedy.
Absolument, parce que ma mère écoutait beaucoup la radio, mais aussi la télé. On n'avait pas de télé en couleur, mais elle avait une toute petite télé qui était dans la cuisine. Et c'était une époque tellement effroyable. Je me souviens, quand j'étais petite à la maternelle, c'était juste la veille de Thanksgiving, où on avait 3 jours, c'était un long week-end. On n'a pas beaucoup aux États-Unis comme en France, et on était dans la maternelle, et on racontait pourquoi on devrait dire merci pour le Thanksgiving, et on racontait ça en haut de nos 4 ans. Et puis le gars qui livre le lait arrive dans la classe, et il dit tout défait, et la maîtresse dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit President Kennedy, on a tiré sur President Kennedy, il est mort. Alors, je veux dire, un truc de choc, de violence, de peut-être pas tout à fait comprendre, mais vu que ça a fait pleurer la maîtresse et que le gars qui livre le lait était déconfit, ça a commencé comme ça, et c'était regarder le funérailles à la télévision. Enfin, donc oui, cette décennie-là a été picorée par beaucoup de tragédies, des cendres le matin. Ah oui, Martin Luther King était assassiné hier. On a entendu ça à l'instant à la radio le matin. Enfin, c'était que ça.
La première génération aussi qui a faire avec l'image. Oui. En tout cas, vous, après avoir biberonné du John Crawford, du Catherine Hepburn, du Julie Andrews côté cinéma, votre idée est faite, Vali. Vous souhaitez faire du cinéma assez tôt. Mais alors, de quel côté de la caméra?
Je voulais être actrice. J'ai plongé tellement dans les histoires au cinéma que j'avais envie de vivre ça de l'intérieur.
Sauf que un petit vent souffle à un moment donné sur Manhattan, où vous allez arriver en 1977. Et là, il faut replanter un peu le décor. On est en plein disco avec les Bee Gees, on est en plein rap avec les Last Poets, on est aussi dans la colère punk des Ramones. Et je me demandais, vos 20 ans à Manhattan, à quoi ils ressemblaient dans ce décor-là?
Fabuleux, c'était génial, parce qu'on est plus chez ses parents, on a le bac, et donc il se trouve que j'étais à Manhattan, donc au centre du village, C'est-à-dire, tout est payé par vos parents, mais on a la liberté tout en étant protégé de loin.
Ouais, de dire non au système, mais avec la bouffe qui tombe tous les mois.
Exactement,
quoi.
Exactement.
Mais vous zonez quand même là où il faut, dans cette période-là, Vali. Parce que vous arrivez à rencontrer des artistes, vous me l'avez confié, on n'en citera qu'un, l'artiste underground par excellence, à savoir Jean-Michel Basquiat.
Oui, parce que comme CBGBs n'était pas loin, c'était le temple punk par excellence dans le village, dans le Bowery, qui était connu pour être l'endroit où c'était les alcooliques qui étaient dans la rue. C'était ça, quand on parle de Bowery Bum dans le cinéma, les clochards, ça se passait là. Donc il y avait cette petite boîte et on allait voir beaucoup de groupes, The Ramones, comme vous avez dit, Talking Heads, Patti Smith. Et il y avait un groupe très étrange, The B-52s, qui avait des coiffures en bouffant comme ça, qui jouait un peu une rock, surf rock. Et il se trouve que j'ai rencontré Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Et on s'est juré qu'à chaque fois que The B-52s passaient, qu'on allait se retrouver. Et c'est ce qu'on faisait.
Ouais.
Et
donc après, un rituel
et je sais que Jean-Michel Basquiat aimait bien comme je dansais et puis mes amis trouvaient qu'il était bizarre et moi j'ai dit mais non, tu vois qui c'est le mec qui écrit ces mots sur le mur, parce qu'à l'époque il n'était pas encore en train de dessiner.
Donc New York à ce moment-là, dans ces années-là, c'était l'endroit où il fallait absolument être, et pourtant vous quittez New York en 81.
Ben oui.
Pourquoi ?
L'amour, évidemment. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bête, hein, parfois.
Pas tant que ça.
Un petit peu.
Non.
D'abord, on a atterri à Londres, parce que je suis avec ma mère.
Pas n'importe quel jour.
Oui, c'était le jour de la mort de Bob Marley, qui nous a pas mal secoués.
Ouais. Et puis, vous débarquez à Paris en mai 81, voilà. Et à ce moment-là, l'ambiance hertzienne ressemble un peu à ça.
Radio verte. 89 MHz. En cas de brouillage, cherchez une noyeur sur votre cadran.
Radio Libre, la seule radio en France qui diffuse du reggae de la Jamaïque.
I, Diana Francis. Take thee, Charles Philip Arthur George.
And thereto I give thee my troth.
La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat.
3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
François Mitterrand quitte l'hôtel de ville et remonte alors le boulevard Saint-Michel en voiture. Il tourne rue Soufflot et descend. C'est à pied et avec le peuple de Paris qu'il va gravir cette rue qui le conduit au Panthéon. François Mitterrand se dégage de la foule, deux roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon.
Entre Lady Di qui dit oui et puis l'investiture de Mitterrand au Panthéon, c'est votre service d'accueil quand vous arrivez à Paris, Vali.
Quelle époque, hein, je vais le dire. Oui, ça m'émeut d'entendre ça parce que c'est vrai, je suis arrivée à Paris, j'avais appris que Mitterrand avait gagné. Moi, j'ai quitté Reagan, j'arrive à Paris, c'est Mitterrand, je comprenais à peine.
Les affreux communistes prenaient le pouvoir.
Exactement, c'est ce que disaient les Américains, parce que quand j'étais jeune, les communistes, ils disaient « the communists, the commies, they're right near you ». Et je croyais que c'était vraiment les monstres.
Ce qu'ils voulaient dire.
Et ça veut dire que les communistes sont les monstres, ils sont autour de vous, et si vous savez qu'ils sont là, dites aux autorités. Donc forcément, on arrive avec le socialisme, c'est vite le raccourci pour les Américains que je suis dans un pays communiste.
Mais vous switchez dans votre tête, sans problème.
Je switch.
Vous les trouvez sympathiques, ces communistes, enfin, ces socialistes.
Exactement, j'ai pris le boulevard Saint-Michel avec une pluie battante et je suis montée, j'ai dansé, j'ai chanté. C'était quelque chose que j'ai pas vécu quand même dans les années 70, à part évidemment on était contre la guerre en Vietnam, mais j'étais trop jeune et là j'avais en haut de mes 20-22 ans, je pouvais participer vraiment.
Alors, 81, c'est aussi l'époque explosive des radios libres qui renversent donc le monopole d'État à émettre. Vous l'avez vécu, vous, Vali, de l'intérieur. Faut redire quand même que ces radios, elles avaient des sensibilités très différentes. Il y avait des radios écologistes, il y avait des radios un peu gauchistes, et puis il y avait toutes ces radios musicales, passionnément musicales. Qu'est-ce qui vous intéressait, vous, dans ce mouvement, on va dire ?
C'est un mouvement. J'ai toujours aimé la radio, il faut le dire. Même quand j'étais petite, j'ai eu un transistor, je crois, pour mes 9 ans ou 10 ans, que j'ai écouté, mais tous les soirs dans mon lit. Donc, le monde de la radio, déjà, c'était une vraie... rêve, un fantasme, j'adorais ça, j'écoutais la musique et les voix, tout simplement. Et donc, les radios libres, quand je suis arrivée, il se trouve que j'étais intéressée aussi par ça, parce que j'avais ce disque qui devait sortir, et donc il y avait cette effervescence de dire « le FM va naître ». Mais il se trouve que notre disque passait sur ces radios-là.
Oui, on va y venir, mais c'était finalement une sorte de transfuge un peu libertaire de ce que vous aviez déjà vécu à New York, cette forme d'ébullition comme ça créative qui se retrouvait en France à travers les radios libres.
Peut-être bien, oui, 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 hein, parce que je quitte New York à un moment où... c'est peut-être New York vit... sa dernière souffle d'une espèce de liberté, parce que dans les années 80, ça a devenu yuppie, les gens qui faisaient de l'argent vite, les traders, et quand j'ai quitté New York, c'était encore en faillite, et j'arrive à Paris, qui est très classique, qui est très l'histoire, et il sort chaque coin de rue, et tout d'un coup, il y a la radio. On peut faire ce qu'on veut, si on veut passer une chanson 4 fois par heure ou toutes les minutes, on peut le faire. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'excitant.
Alors justement, sur ces radios libres, il y a un tube qui passe en boucle, c'est le vôtre. On vient de le rééditer, on l'a en vinyle, ça, c'est collector hein, maintenant. Sur cette pochette, il faut quand même la dire, moi je vais la garder jalousement, hein, c'est mes 22 ans. Donc vous êtes nu avec Grégory Ken, le compagnon de ce rap. Vous cachez juste les seins.
Ouais.
Gonflé, hein, pour l'époque.
Ben, gonflé, parce que surtout qu'on a demandé au photographe Richard Avedon de faire la photo. Philippe Bourgoin, qui a écrit des textes, qui a produit l'album, il avait vu une série dans Rolling Stone de Nastassia Kinski nue dans un lit. Et donc, il dit, on va appeler Richard Avedon, pourquoi pas, regarde ce qui nous arrive, on va essayer. On lui a écrit, il me dit, il nous a dit, qui êtes-vous? On a dit, voilà, on vient de faire un énorme tube. Ok, vous pouvez venir. Il fallait payer, hein, c'est pas comme si. On fait une casting pour payer, en plus, c'est ça qui est drôle. Et du coup, on y va. Et comme on a raconté que l'album parlait de Adam et Ève avant et après la pomme, il a l'idée d'une foutre à poil, pour parler comme une française, et avoir un recto verso. Parce que sur cette pochette-là, il y a le recto, on est tout niais, avec les jolies têtes, et sur le verso, c'est nous, diaboliques, avec une cicatrice sur le ventre, avec Grégory, avec des yeux qui percent et tout ça. Et on voulait montrer mes seins, mais comme je suis une vraie puritaine, finalement, de Nouvelle-Angleterre, je montrais mes nibards. Et en fait, donc, on a trouvé toutes les astuces pour les cacher. Et j'ai dit non, je ne peux pas.
Donc, vous votez pour la liberté, mais enfin, il y a une limite quand même.
Bah ouais, mon corps, oui.
Qui êtes-vous? Donc, vous êtes Chagrin d'amour. Tous les branchés des années 80 tentent de rapper sur ce tube. Groupe composé donc du beau Grégory Ken et d'une adorable américaine qui est Sampa Bell. Est-ce que vous compreniez les paroles que vous chantiez à l'époque, Valou?
Pas du tout. Surtout, chacun fait ce qu'il lui plaît. Surtout tous les textes de Grégory, c'est très compliqué.
Des titres censurés d'ailleurs pour une partie des paroles de Grégory Ken.
Ouais, c'est Radio Monte Carlo qui nous censurait. Parce que j'ai dit, tant pis pour toi. Qu'est-ce qu'il dit? Je peux même pas jouir, tant pis pour toi, il faut dormir. Ils ont dit, la chanson ne passera pas, mais je pense que la chanson était plus forte que Radio Monte Carlo.
5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. C'est plein de Kleenex et de bouteilles vides, je suis tout seul, tout seul, tout seul. Pendant que Boulogne se désespère, j'ai de quoi me remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Je stérilise les murs qui dansent. L'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet.
Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait?
Je crois que j'ai remis la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît, plaît.
Précipice. Du mat,
faut que je trouve à boire. Liqueur forte ou café noir. Je brûle un feu rouge, police patrouille. Je serre les fesses, y'a rien qui presse. 4, 5 francs maros, crie le petit chose dans le matin rouge. Car mon ondine sous ce comptine. Tout près d'une poste, y'a un petit bar. Je pousse la porte et je viens m'asseoir. 3, 4 patibulaires, tape le carton dans les water. Toute seule au bar, dans un coin noir, une blonde platine sirote sa fine. Elle dit champagne, je l'accompagne. Elle dit 50, je dis ça me tend.
Et vous êtes rentré comment?
Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio.
Chacun fait ce qui lui plaît,
Que de pression dans les bars.
Personne te pousse à voir. Chacun fait ce qui lui plaît,
Légende, c'est manie.
C'est décalcomanie.
7 heures du mat, l'hôtel. Je paie, j'abrège, je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Elle fait glisser son cœur croisé sur sa peau bronzée. T'as les banilons qui filent sur le tendon. Ses ongles m'accrochent, tu viens chérie. Le lit qui craque et les volets claquent. Seule dans le lit, dans ses draps bleus froissés. Sur sa police, mes doigts glacés. Elle prend la pause, pense à autre chose. Ses yeux miroirs envoient mon regard. Des anges pressés dans ce bloc cassé. Me disent c'est l'heure, je leur dis quelle heure.
Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé?
Non, vraiment pas.
Chacun fait, fait ce qui lui plaît,
Sous mes pieds, il y a la terre.
Sous tes pieds, il y a l'enfer. Chacun fait, fait ce qui lui plaît,
Mon Dieu, je peux même pas jouir.
Tant pis pour toi, il faut dormir. Alors je me sauve dans le matin gris. C'est plein de cajots et pas de taxi. Les chats qui se tablent au petit ronron. Les éminents, ces petits bateaux. Je me sens pas belle. Les bigoudis sont plus en pis. Mon studio, j'aspirateur. La vidéo me fait un peu peur.
Madame Pipi a des ennuis. Monsieur Papa se fait du tracas. Dans les logis, les maladies. Bébé fait nuit s'abouillir.
8 heures du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents et je monte le sang. Sors sur le lit de mes draps bleus froissés. C'est plein semi, sommet cassé. Je perds la tête, mes cigarettes sont toutes fumées dans le centre. C'est désespère, je crois remplir un dernier verre. Clac, fais le verre en temps de soleil. No, je coupe la mer en massant les morceaux.
Chacun fait ce qui lui plaît sur RFI, surtout quand c'est Vali qui valide une jolie blonde américaine qui se souvient des années dans le Connecticut lorsqu'elle matait aussi le show d'un certain Ed Sullivan, un monsieur alors très sérieux, en costard-cravate, une tête d'Humphrey Bogart mais raté. Hein.
Exactement.
Et qui un jour de 1964 a quatre garçons à présenter, on est devant le petit écran, l'écrin du noir et blanc.
You know, all of us on the show are so darn sorry, and sincerely sorry, that this is the third and thus our last current show with the Beatles, because these youngsters from Liverpool, England, and their conduct over here, not only as fine singers, but as a group of fine youngsters, will leave an imprint with everyone over here who's met them. And that goes for all of us on our show.
Traveling arrière.
Alors Vali, vous avez 6 ans à ce moment-là, mais est-ce que vous...
5 ans, ouais.
Est-ce que vous aussi, vous hurlez derrière votre poste de télé en regardant les Beatles?
J'étais rivée, je suis quelqu'un de très impressionnable, je crois toujours, et je pense que le mélange de ces filles qui criaient avec la beauté de John, Paul, George et Ringo, c'était trop pour moi. Et vraiment, j'étais happée tout de suite. Quand j'écoute aujourd'hui, j'entends Ed Sullivan qui devrait avoir peut-être...
Présentateur.
Ouais, 50 ans, je ne sais pas. Il avait l'air d'avoir 150. Et j'adore parce qu'il appelait les Beatles, parce que c'est vrai qu'ils avaient 22 ans, un truc comme ça, 23 ans. Les youngsters, ça veut dire les jeunots. Et il disait souvent ça quand il invitait The Rolling Stones, The Doors et tout ça. Oui, oui, j'étais tout de suite conquise.
À 5 ans. Cueilli.
Ah oui, oui, mais...
La préadolescence, ça commence très jeune dans ce pays.
Normalement, c'est à 2 ans, la préadolescence. Mais après 5 ans aussi, je savais que j'aimais ça.
Les Beatles, les Stones, Malcolm McDowell d'Orange Mécanique, Sean Connery alias James Bond, Sid Vicious, la Reine d'Angleterre, tout ce petit monde est donc réuni sur la couverture de ce beau livre « British Invasion, Pop Save the Queen » que vous signez donc avec Stephen Clark, c'est un écrivain journaliste anglais installé à Paris. Quelle était l'idée de cette conversation entre vous ?
En fait, c'était une commande d'une maison d'édition, GM Édition, qui savait que j'adorais le rock anglais. Je veux dire, toute mon enfance, c'était à la radio, les Kinks, les Stones, les Animals et tout ça. Et donc, il a dit, ça serait bien une Américaine qui parle de ça. J'avais jamais écrit un livre, donc j'étais un peu inquiète. Il dit, on va prendre quelqu'un pour écrire avec toi. Et je dis, non, j'ai une idée. J'ai un gars, Stephen Clark, qui écrit des bouquins l'année dans la merde et il est toujours en train de taquiner les Français et les Anglais, vu pour l'année l'autre. Et comme je le connaissais, j'ai dit, pourquoi pas, on fait ça ensemble comme conversation croisée, parce que lui, il a exactement mon âge, mais il a grandi en Angleterre et moi aux États-Unis, et on a le même amour pour pas mal de musique.
Alors, en vous écoutant converser tous les deux, on a l'impression un peu qu'un gros poste de télé des années 60 pousse comme ça au milieu de notre salon, de cette Amérique, qui est au départ une Amérique bien coiffée, bien rangée, bien morale, bien puritaine, et que tout à coup une tornade venue de Grande-Bretagne lui tombe sur la tête par le biais donc de la musique, de la mode, des arts et du cinéma. It's been a hard... Est-ce que vous, jeune fille américaine, vous avez ressenti cette tornade britannique ?
Peut-être pas autant que ça. En tout cas, aujourd'hui, avec rétrospect, oui, je vois. Mais pour moi, c'était surtout la musique qui m'a bousculée. Parce que j'ai grandi avec la radio. Et du coup, j'ai toujours remarqué qu'à part le Motown, dont je suis extrêmement fan, à chaque fois qu'il y avait un groupe anglais... C'est ça que j'aimais et c'est ça que j'attendais chaque soir avec mon petit transistor à entendre. Et aujourd'hui, effectivement, je vois comment ça a changé l'Amérique par rapport à certaines émissions de télé, les modes avec Mary Quant et sa Vidal Sassoon qui l'a coiffé, ce truc très structuré et qui arrive aux États-Unis. Les États-Unis étaient dans une période, je veux dire, il y avait la guerre en Vietnam, il y avait constamment le procès de Bobby Seale des Black Panthers et Angela Davis, qui était une grande figure de cette époque-là. Donc, on était bien dans notre nombril et comment sortir nos jeunes de cette guerre. Donc, c'était... Ouais, c'est
en même temps,
un mélange assez incroyable.
Cette tornade britannique, elle est sympathique au début, puisqu'elle a le visage des 4 garçons de Liverpool avec leur coupe au bol. Ils sont gentils au début. Puis finalement, il y a une sorte de virage puissamment psychédélique qui est pris, et ça aboutit, c'est un raccourci, au massacre du gourou Charles Manson. Il faut vous lire, c'est page 24. Mais au fond, si on regarde la musique avec les Bee Gees, si on regarde la mode, vous nous parliez des coiffures de Vidal Sassoon, il faut avoir en tête la coiffure de Mia Farrow. Si on regarde le cinéma avec Orange Mécanique ou les séries télé avec Chapeau Melon et Bottes de Cuir, ça fonctionne. C'est quoi la clé de la réussite britannique dans un pays qui s'appelle l'Amérique?
Par exemple, je prends juste Londres, parce qu'à l'époque, il était question de Swinging London.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle Swinging London?
Swinging London, c'est une période en Angleterre où la musique commence à faire du bruit. On met à côté peut-être le côté variété, c'est la musique rock qui arrive. Les jeunes commencent à se dénoter par ce qu'ils portent, si c'est pas les trucs très colorés, très psychédéliques plus tard, mais ou structurés de Mary Quant et Vidal Sassoon. Mais ce qui est bien aussi aujourd'hui encore en Angleterre, à Londres, c'est que ça cohabite très bien. Parce que les Anglais sont assez, l'expression « never complain, never explain », c'est-à-dire ils peuvent aller dans les folies totales, mais ils vont toujours garder cette espèce de poker face.
Flegmatique.
Oui, flegmatique. Les Américains, ils vont brûler leur soutien-gorge et tu vas avoir une fille avec les seins qui burlesque à droite, à gauche, au milieu de Woodstock. Les Anglais,
on a l'image Tex Avery, là.
Voilà, exactement. Et les Anglais, ils font des statements, mais ils ont toujours cette... pas touché, quoi. Et c'est ce flegme-là qui fait que c'est encore plus puissant.
En même temps, la drogue va arriver, évidemment, avec tout ce mouvement de Swinging London. C'est le Londres qui swing, hein, en fait, on pourrait le traduire comme ça. La drogue et la mode commencent à fonctionner ensemble. À partir de quel moment ?
Oh, waouh, qu'est-ce que... Je sais que les Beatles ont commencé à fumer des pétards après avoir rencontré Bob Dylan.
C'était précis, hein.
Ouais. Et à partir de là, on voit...
Là, c'est la mauvaise influence des Américains sur les Anglais.
Exactement, hein. Mais aussi Bob Dylan a influencé les Beatles et surtout John Lennon a écrit les morceaux beaucoup plus personnels. Donc il y avait les deux choses qui fonctionnaient ensemble avec Dylan et les Beatles.
Et alors vous, ce qui est assez joli, Vali, c'est que vous, je sais pas, on va dire que vous êtes issu de la petite bourgeoisie, middle class des États-Unis, vous allez tomber à pieds joints dans le punk. Jusqu'où ? Fringué comment ?
Fringué quand même parce que c'était à New York à l'époque, donc on imitait ce qu'on voyait dans la rue. Mais j'avais un manteau en poil de chameau, mais j'avais acheté les lunettes noires à Fiorucci, donc j'étais punk déjà. C'était une espèce de masque, on se sentait too cool for school. Et après, je suis allée dans les friperies, j'ai acheté les chemises de bowling avec le nom. Je me souviens, j'en avais trouvé un en noir qui disait Dix Café derrière. J'ai porté les Repetto à l'époque, c'était des Capizio qui portaient Gainsbourg dans les années 70. Et j'avais le panoplie.
Ouais. Avec l'idéologie qui va avec ? Parce que c'est quoi l'idéologie
punk ? Différent, parce que le punk No Future, c'est anglais. Aux États-Unis, le punk a démarré plus, on dit, c'est artistique. C'était pas du tout comme en Angleterre où vraiment, avec Thatcher qui est arrivée, où on disait no future, pas d'avenir.
La revendication politique. Réelle.
Absolument. Ouais. Il n'y avait pas cette revendication.
Donc c'était plus le look.
C'était le look. Et puis, un punk, c'était un mauvais gars. C'est-à-dire, he was a punk.
Qu'on traduira comment, alors?
Un punk, c'est un délinquant.
Hey, you! Who, me, Officer Krupke? Yeah, you! Give me one good reason for not dragging you down the station house, you punk!
Même dans West Side Story, il y a un moment où, quand ils sont avec Officer Krupke, c'est les Jets qui sont le gang américain de New York, il y a les Sharks qui sont des Portoricains, et l'officier les appelle les punks. Vous êtes des punks, vous êtes des malfrats, les petits délinquants. Donc punk était plutôt ça, on n'a rien à foutre, mais c'était pas du tout comme en Angleterre.
Alors si on passe une tête du côté du cinéma avec votre livre, Vali, on peut s'arrêter parce que vous avez glissé 4 DVD
oui.
Dans votre British Invasion. Il y a le Hard Day's Night des Beatles.
Fabuleux film.
Alors fabuleux, on dirait peut-être un mot tout à l'heure, mais on va s'arrêter une seconde en sol majeur sur le film de Lewis Gilbert avec Alfie,
oui.
Le dragueur avec l'excellent Michael Caine.
I told you before to be careful where you put your legs.
I was only trying to be helpful.
I can help myself. Hello? They never make these cars big enough, do they? Well, you all settled in? Right, we can begin. My name is...
Alfie.
Alfie.
Vous croyez peut-être que je vais vous casser les pieds avec le générique maintenant? Eh ben non, je vais vous épargner ça.
Alfie!
Oh, dis donc, t'as combien de temps avant que ton mari vienne te retrouver à ton train?
Oh, t'occupes donc pas de mon mari.
Ben justement, c'est à lui que je pense, parce qu'il faut voir son point de vue. Ah oui, ben vous, les femmes, vous comprenez pas ce genre de nuances. Puis habille-toi, allez, ça suffit pour aujourd'hui.
Oh, t'as vite fait de changer de refrain.
C'est le klaxon qui m'a refroidi. Des trucs à vous ôter vos moyens, ça.
Extrait en sol majeur de Alfie.
Michael Caine avec cet accent cockney, c'est dingo, c'est un vrai goujat dans le film. Les femmes en prennent plein pour leur grade et lui aussi à la fin. Mais bon.
Alfie, donc, ouais. Film incontournable des années 60 sur comment draguer sans se brûler. Okay. Voilà. C'est un des 5 DVD glissés dans votre British Invasion. C'est quoi votre DVD préféré à vous, Valérie ?
Là-dedans, je pense que c'est Hard Day's Night, parce que c'est Richard Lester, qui est un réalisateur américain, qui a réalisé ce film sur les Beatles, sur le Beatlemania. Et c'est là où on découvre sur le grand écran ces 4 garçons dans le vent qui sont absolument irrésistibles. Et puis, par ailleurs, la filmographie est absolument merveilleuse en noir et blanc avec les cadrages très graphiques.
Ça, c'est la cinéphile qui parle. C'est qui voulait faire du cinéma.
Oui.
En tout cas, en refermant British Invasion, on comprend que la petite américaine s'est donc émancipée, et puis envolée, et puis un jour posée dans le pays d'Anna Karina.
Je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui est vrai ou pas vrai. Je me trompe toujours. Oui, mais c'est impossible à savoir. Si par exemple, il y a un mensonge.
Il pleut.
Maintenant, la vérité.
Il y a du soleil.
Ah.
Qu'est-ce qu'il y a?
Mais il n'y a pas de différence sur ton message.
Et alors?
N comme nouvelle vague.
Belmondo et Anna Karina dans Une femme est une femme. Qu'est-ce qui vous rendait zinzin d'Anna Karina, Vali ?
Oh, sa beauté. Oh, je la trouvais d'une beauté dingue. Je ne savais même pas qu'elle avait un accent avant d'arriver en France. Je veux dire, ce n'était pas ça qui m'a plu chez elle, que je sais que ça plaît aussi, ça fait partie de son charme. Ouais. Mais moi, je trouvais que c'était une beauté. Cette égérie de la nouvelle vague, j'ai étudié au cinéma. Et je trouvais maligne. Quand elle pleurait, les larmes qui sortaient de ses yeux-là, c'était vraiment des énormes sanglots. D'ailleurs, j'ai coupé...
Vous êtes effectivement très impressionnable.
Oui, je sais, hein, c'est la vérité. Hein. En tout cas, elle, j'adorais cette fille. J'ai vu dans Alphaville, c'était vraiment une esthétique que j'aimais beaucoup. Donc j'ai coupé mes cheveux, j'ai mis une frange et j'ai teint mes cheveux en noir. Et à l'époque, quand j'avais 13 ans, on a déménagé à Nouveau-Mexique, à Albuquerque. Et je rentre après mon première année à New York et je savais que mes parents étaient là pour m'attendre avec certaines amies. Je passe devant eux avec mes cheveux noirs et le frange et ils ont pas
reconnu.
Ils m'ont reconnu. Et ma mère me disait, mais Vali, tout le monde veut être blonde. Toi, t'es blonde et tu teintes tes cheveux en noir. Et bon, voilà, j'ai fait mon petit rebelle à ma façon. Voilà.
Vous nous avez raconté comment la culture britannique a colonisé votre American Way of Life, enfin un petit peu quelque chose comme ça. Est-ce que vous-même, après 38 ans passés en France, vous vous êtes laissé coloniser, envahir par la culture française? Est-ce que vous diriez ça comme ça?
Oh oui, moi je suis... Paris, c'est mon pays. Et puis, non, mais dans un sens, oui. C'est vrai.
Avec les cloches d'église. Hein.
Exactement.
Parce que c'est pas les mêmes aux États-Unis.
Non, pas du tout. Il y a une vraie différence. Est-ce que c'est l'atmosphère, est-ce que c'est l'air? Mais j'adore la France. J'aime bien visiter la France. Je trouve que quand on habite, on élève ses enfants dans un pays.
Dans un couple mixte.
Dans un couple mixte, j'ai toujours les Français. Je sais que les Américains, il y en a. Plein à Paris. Dès qu'ils arrivent en France, ils cherchent la communauté américaine. J'ai jamais fait ça. Mais jamais, jamais. Je suis venue en France parce que j'étais francophile depuis mon plus jeune âge. Et j'ai connu des Cubains aux États-Unis qui étaient dans mon école et ils étaient obligés de quitter le Cuba. Et quand ils parlaient espagnol et anglais, c'était mon rêve d'être bilingue. Donc voilà, j'ai vraiment toujours aimé la France. Et oui, donc je suis totalement française avec un côté américain où je parle avec tout le monde, je suis très exubérante. Les choses qu'on
tout
fait pas en France. Oui, tout est merveilleux, mais je suis quand même très sombre, mais ça se voit pas toujours. Mm-hmm. Mais non, je suis américaine, mais forcément, après 38 ans, on devient un peu français quand même, non?
Vous avez l'air désespérée en le disant.
Non, mais je... Comme vous le faites remarquer, voilà.
Alors je rappelle quand même que vous causez aux Français dans le Poste,
ouais,
dans des radios aussi prestigieuses qu'Europe 1 ou France Inter. Bon, c'est pas RFI, mais c'est pas grave. Ça veut dire que quoi ? Vous maîtrisez vraiment beaucoup plus la langue française que vous ne semblez nous le dire ? Je sais que vous parlez l'argot, par exemple.
Mmh. Écoutez, je pense
le slang français.
Le slang, beaucoup d'argot, et d'ailleurs, des fois, ça me joue les tours, parce que je ne vais pas trouver la façon correcte de dire certains trucs. Mais j'ai pu dire des trucs banals, mais même dire meuf à la radio, ce n'est pas très joli, ou des gros mots, parce que je sais que ça passe aussi avec un accent. Des fois, je joue là-dessus.
Je peux vous faire la lecture ?
Oui.
Un petit classique. On va voir si vous êtes copine avec les classiques, Valie. Volontaire bannie comme moi, et elle ne savait pas que derrière les rideaux je la regardais. Alors écoutez, elle s'est approchée de la glace du petit salon, car elle a la manie des glaces comme moi, manie des tristes et des solitaires. Et alors, seule et ne se sachant pas vue, elle s'est approchée de la glace et elle a baisé ses lèvres sur la glace. Oh, ma sœur folle, aussitôt aimée par ce baiser à elle-même donné. C'est un extrait de Belle du Seigneur.
Mmh, c'est assez joli d'ailleurs.
Quel est ce vagissement ?
Non, parce que je dis, oh dis donc, c'est quoi ce truc ? Et puis je dis, c'est assez joli, mais j'ai fait une confiance l'autre jour et ça m'a valu d'être, pas détesté, mais presque par beaucoup de gens de mon âge. C'est-à-dire que j'ai essayé de lire Belle du Seigneur, d'Albert Cohen, si je ne me trompe pas de l'auteur. J'ai lu 450 pages et c'était une torture totale de ce truc d'apparence, c'est-à-dire on est dans notre bureau et le mec où il place son stylo, je ne suis pas rentrée dedans et toutes les copines disaient que c'était leur livre de chevet, qu'ils ne pouvaient pas vivre ce livre, combien on a mis leur fils Solal et tout ça. Et moi, je dis stop, ok. Ah, je ne sais pas si c'est le style français de certains auteurs où ils se regardent écrire, parce que moi j'aime beaucoup la littérature américaine, voire anglaise, anglo-saxonne disons, parce que les mots sont simples, les phrases sont simples, mais ils sont aussi remplis d'images que quand on doit ajouter les furitures de la langage. Alors là, je vais avoir les hate mail. Les gens vont dire, oh, qu'est-ce que c'est cette pauvre fille ? C'est la vérité. Donc, Belle du Seigneur m'est tombée de main et je me dis, peut-être 20 ans après avoir essayé de les lire, peut-être je vais reprendre parce que c'est très joli ce que...
Si vous voulez, je vous fais la lecture le soir.
D'accord, avec grand plaisir.
Je viens vous border.
Très bien.
Mais qui êtes-vous, Valie ? Francophile ? Punk ? What else ?
Je.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Again.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, he's got it. By George, he's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain.
Les Ramones d'un côté, My Fair Lady de l'autre. Faut vous décider, Valie, vous êtes romantique ou punk finalement ?
Oh, je suis totalement romantique. Et puis il y a des morceaux de Ramones qui sont romantiques aussi dans leur façon. Hein,
mm-hmm.
Qui parlent de Locket Girl. Là, c'est une chanson qui est plus tard, qui est beaucoup plus produite. Mais je suis très romantique et j'ai toujours aimé ces comédies romantiques avec Tracer Spencer et Catherine Hepburn, par exemple, où on se déteste et finalement on finit par tomber dans les bras, un peu quand Harry a rencontré Sally. Je suis les deux, je suis très romantique, une fille.
Comment vous vivez l'américanisation de la culture française ? Allons-y.
J'ai remarqué dès que je suis arrivée en 81 que la France a un anti-américanisme, mais sous-jacente. On n'aime pas les États-Unis depuis le début. Mais Ils adorent acheter leurs jeans, avoir leur Santiago, avoir leur musique, manger comme eux. La plupart des gens, quel est ton film préféré? Ça va être un film américain. Donc, j'ai jamais compris pourquoi...
C'est un « Je t'aime, moi non plus ».
Exactement, c'est vraiment « Je t'aime, moi non plus » avec l'Amérique.
Avec cette histoire d'américanisation de la culture, je pense à quelque chose d'un peu plus sérieux. Ça va être la minute sérieuse dans Sol majeur. À une caricature qui est parue tout récemment dans le New York Times. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Vali. Elle montre Netanyahou, le premier ministre israélien, en chien, avec une laisse. C'est une caricature, hein, on est bien d'accord. En chien avec une laisse qui est tenue par Donald Trump. Vous avez l'image. Ça a été jugé comme dessin antisémite par la presse israélienne. Et ça a décidé le New York Times lui-même à ne plus désormais publier de dessins politiques dans son édition internationale.
Ça, je ne savais pas.
Je vous l'apprends. Oh, est-ce que ce politiquement correct, qui s'importe apparemment très bien dans le monde et notamment en France, est-ce que ça vous inquiète ?
Bah bien sûr, ça inquiète tout le monde.
Bah, je sais pas, hein, parce qu'il y a du monde qui suit le politiquement correct.
Bah, je sais pas, l'autre jour j'ai vu la couverture de Charlie Hebdo sur le foot américain, il y a la Coupe du Monde de foot américain et on voit une vagin avec à la place de clitoris, il y a un ballon de foot en disant on va bouffer pendant quelques temps. J'ai ri. Je suis désolée, j'ai trouvé ça drôle. Et après, j'ai dit, oh my God, est-ce qu'ils vont se faire taper dessus pour ça? Moi, je trouve que c'est grave. Forcément, j'ai grandi dans les 60s, et il y avait de tout et son contraire. Les caricatures, ça allait à cœur joie. Et aujourd'hui, on a tellement peur d'offenser telle ou telle personne. Oui, ça me manque de voir des gens à la télévision qui portent, il y a un rabbin à côté d'un imam. Ça me manque, évidemment, on ne peut plus le faire.
Avec des vrais débats d'idées, etc.
Ben oui.
On va se quitter, Vali, avec ce qui nous est arrivé de mieux en France, parce qu'elle est arrivée jusque dans nos discothèques, c'est Joni Mitchell.
Ah,
elle est punk ou pas, elle?
Je crois oui, dans le sens où elle fait ce qu'elle veut, elle plie à personne. Et il y a une très bonne nouvelle pour vous, Yasmine, qui aime aussi Joni Mitchell, qui aimait. Hier soir, j'ai vu l'avant-première du film de Martin Scorsese sur The Rolling Thunder Review de Bob Dylan. Il y a un moment où Joni Mitchell décide de faire partir de cette tournée et on la voit chanter la chanson Coyote en apprenant les accords à Bob Dylan.
Coyote, quand je pense que moi j'ai dit toute ma vie coyote, ça dit quoi en un mot, cette chanson?
Coyote, c'est une histoire d'une femme qui est sur la route, donc son histoire à elle. Il dit coyote est dans un café, il regarde ses œufs brouillés, il renifle mon odeur sur ses doigts, tout en regardant les jambes de la serveuse. Saw a farmhouse burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We rolled right past that tragedy till we pulled into some roadhouse lights where a local band was playing. Locals are kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner, he won't take no. He drags me along.
Merci Joni Mitchell et merci Vali. Et puis si vous en voulez plus sur l'enfance et sur l'adolescence de notre invité, en sol majeur vous conseille la lecture de British Invasion, Pop Save the Queen, que vous publiez donc avec Stephen Clark chez GM Éditions. Je crois qu'on a tout dit. En sol majeur avec Facebook, Twitter et en podcast sur notre application Pure Radio, bien sûr derrière votre poste, chaque samedi et chaque dimanche à 14h10, temps universel, 16h à Paris. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve demain avec un acteur shakespearien venu de Dakar, j'ai nommé Adama Diop. À demain.